16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro.
Il faut dire Stéphane, je vous dis bonjour, je dis bonjour aux auditeurs, mais vous êtes choqués par l'accoutrement de David aujourd'hui, David Mestel-Lopez.
D'habitude, David, il est si élégant.
Qu'est-ce qu'il passait,
c'est un peu compliqué à expliquer. Disons qu'il faut que j'ai un certain nombre de chemises bleues, il faut que je les ménage, donc j'en ai mis une autre aujourd'hui qui est un petit peu débraillée. Je vous prie de m'excuser.
Et là, vous vous êtes fait rouler parce qu'elle est pas
Elle est pas rigueufrie, c'est vrai.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de l'Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec ce complice qu'un jour peut-être je ne pourrai plus voir en peinture, mais pour l'instant ça va, j'ai toujours plaisir à le retrouver. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, c'est une des plus belles choses que vous m'ayez dites en 256 émissions, c'est dire. Mais je sens que cette formulation n'est pas innocente, touchez-vous et savamment pensée. On peut les voir en peinture, c'est le point commun de nos trois personnages cet après-midi, c'est ça?
Oui Mathieu, oh votre perspicacité vous honore, on ne peut rien vous cacher. Et elle ne se cachait pas non plus, elle se montrait même, en peinture donc. A commencer par la garçonne du Paris des années folles, Suzy Solidor, qui fut, avec plus de 200 portraits, l'artiste la plus portraiturée au monde. Ils s'y sont tous essayés, de Picabia à Marie Laurencin, en passant par Francis Bacon. Puis je vous raconte Gertrude Stein, une collectionneuse américaine avisée dont un seul portrait d'elle aura permis à celui qui l'a peint de se faire un nom. Et quel nom? Picasso. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un nom très célèbre aussi dans le monde entier, ses initiales BB. Brigitte Bardot, qu'on peut voir aussi en peinture.
Oui, ça Stéphane, on peut la voir en peinture. L'artiste Christo, notamment, l'a peinte à ses débuts. Mais Brigitte Bardot, elle ne peut plus voir en peinture un peintre de Saint-Tropez qui continue à vendre des portraits d'elle et tout un tas de produits dérivés.
Des boules chinoises, oui, des godemichés à seringues.
Non, quand même pas, c'est pas vrai. Vous connaissez bien la boutique, visiblement. Je vous expliquerai tout ça. Vous allez faire vos emplettes là-bas.
Ça, ça a été repris d'une autre émission.
Oui, moi, je me doute.
Je tiens à préciser pour les auditeurs, des fois, qu'il pense que j'ai dit vraiment une horreur pareille.
Je vous expliquerai tout ça et je vous parlerai surtout de Bardot. Eux, Stéphane, feront aussi probablement un jour l'objet d'une exposition. Je vous laisse présenter nos muses à nous.
Alors, elle est notre muse et nous amuse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dites donc, vous connaissez forcément l'histoire du radeau de la Méduse.
Bah oui,
un drame dont tout le monde connaît au moins certains des rebondissements gastronomiques, disons. Mais est-ce que vous connaissez le capitaine de la Méduse? Ça vous dit quelque chose?
Non.
Il s'appelait Hugues Duroy de Chaumaret. Quand on tape son nom sur un moteur de recherche sur Internet, la seule chose qui apparaît, c'est le radeau de la Méduse peint par Géricault. Donc vous voyez, Chaumaret, on ne peut pas littéralement le voir en peinture. Il a été comme dissous, absorbé par la tragédie dont il est à l'origine.
Donc, il n'est même pas sur le tableau.
Eh bien, il n'est pas sur le tableau, bien sûr. Alors je suis allé l'exhumer de sa gangue de peinture pour vous, les amis.
Quelle belle formulation.
Avec nous également, David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention.
Oui, et là, c'est quelque chose de très quotidien et de très célèbre, c'est l'application Instagram.
Ah oui.
D'où elle vient, ça, comment
elle est très utilisée.
Ne postez pas une photo de vous avec cette chemise. Oui.
Sinon, vous allez perdre beaucoup de followers.
Ouais, je sais pas, peut-être qu'il m'aime bien mes followers.
Il verrait ça comme du deuxième degré. Avec nous également, Stéphane, regarde, il est là, est beau. Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Vous êtes toujours nickel, Olivier. Ouais.
Ah bah oui, moi j'ai affaire à repasser à la maison.
Parfois quelques taches de gras. Il y a votre profession. Aujourd'hui, vous nous parlez de la guimauve.
Ah oui, on pourrait faire un joli feu de camp et puis on grillerait des guimauves tous les cinq. Là, ce serait sympa.
La guimauve, c'est guimauve équivaut au chamallow, exactement.
Alors,
le chamallow est une guimauve.
Je vous dirai la différence qu'il y a.
Il y aura débat.
Il n'y a pas débat. Il y a une vraie histoire autour de tout ça. Il y a guimauve, chamallow, marshmallow.
Oui, c'est trop mou.
Stéphane, vous avez déjà fait griller des chamallows autour d'un feu chez les scouts?
Je ne crois pas, mais je crois avoir mangé des chamallows, oui.
Ouais.
C'est déjà bien.
C'est très mauvais pour les dents.
C'est tout mou. Alors là, franchement, c'est sucré, quoi.
Non, c'est du sucre que vous mettez.
Oui, il arrive même encore à bouffer des chamallows. Enfin, s'il y en a bien deux qui peuvent plus voir en peinture ici, c'est Stéphane et Clémentine, opposés chaque après-midi dans la cruelle mais délectable épreuve du quiz. Burn to be alive, ce sera dur, ce sera injuste, mais ce sera bon. Vers 5h-10. Tout de suite, direction le cabaret. Cette Suzette-là a fait perdre la tête à beaucoup d'artistes. Une star du cabaret français qui incarne à elle seule la garçonne des années folles. Résultat, ils sont nombreux à avoir voulu lui tirer le portrait avec leur pinceau, s'il vous plaît. Stéphane Bern nous raconte Suzy Solidor, la femme la plus peinte au monde.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Bienvenue dans l'univers feutré du cabaret. Nous sommes dans le Paris d'avant-guerre, rue Sainte-Anne, à la vie parisienne, un repère d'aristocrates et d'hommes d'affaires, d'artistes et de demi-mondaines. Sa fondatrice, Suzy Solidor. Elle est sur scène, regardée dans sa robe fourreau qui épouse parfaitement sa silhouette et met en valeur ses formes généreuses. Elle a tous les regards braqués sur elle, féminine jusqu'au bout des ongles. Pas vraiment. Ses cheveux sont coupés au carré et une frange tombe sur son visage anguleux. Elle doit à son physique androgyne d'être l'icône de la garçonne des années folles. Nonchalamment appuyée sur un piano sur lequel on a jeté un châle, elle se met à chanter d'une voix grave et enjôleuse.
Ouvre les yeux, réveille-toi. Ouvre l'oreille, ouvre ta porte. C'est l'amour qui sonne et c'est moi. Quitte la porte.
Sur les murs de la salle, à l'ambiance tamisée, des dizaines de portraits sont accrochés au mur et Suzy est entourée d'elle-même. Suzy Solidor pourrait s'appeler Dorian Gray. Tous les artistes ont voulu figer son visage pour l'éternité. C'est plus de 200 artistes au fil des ans qui s'y sont essayés, faisant d'elle la femme la plus portraiturée au monde. « Je suis plus à peindre qu'à blâmer », s'amusait-elle à répéter. La première chose que Suzanne Marion voit lorsqu'elle ouvre les yeux à Saint-Servan, aujourd'hui un quartier de Saint-Malo, le 18 décembre 1900, c'est la mer. Une image qu'elle emportera partout avec elle. De l'eau salée coule dans ses veines. Du côté de son père biologique, un avocat chez qui sa mère est gouvernante, elle descend quand même du célèbre corsaire Surcouf. Quant à sa mère, Louise Marion, pour échapper à la condition de fille mère, l'une des plus mal perçues de son temps, elle épouse un certain Eugène Prudent Rocher, qui reconnaît la petite Suzanne, âgée de 7 ans. La famille s'installe près de la tour Solidor. Tiens donc, ce nom sonne drôlement bien. Suzanne raconte elle-même qu'elle décroche son permis de conduire à 14 ans. Elle est sûrement l'une des plus jeunes femmes en France à conduire une voiture et par servir sur les fronts de la Grande Guerre. La journée, je conduisais le général et la nuit, je conduisais les ambulances, expliquera-t-elle. Et tandis qu'elle assiste aux horreurs de 14-18, elle s'évade en secret, rêvant à son vœu le plus cher, devenir mannequin. L'armistice signé, Suzanne Rocher s'installe à Paris. Elle rencontre l'une des femmes les plus mondaines de la capitale, la célèbre antiquaire Yvonne de Brémond-Ars, qui se charge de son éducation, devenant son Pygmalion. Car elle et Suzanne s'aiment et ne s'en cachent pas. Yvonne lui fait donner des cours de chant et la propulse sur le devant de la scène en la présent au Gotha parisien. Suzanne réalise son rêve et devient mannequin de maillot de bain. Et on la voit sur les planches de Deauville dans des pièces qui imitent les algues ou le filet de pêche. Elle attire les regards des artistes, à commencer par celui du Néerlandais Van Dongen, qui en fait son modèle. Yvonne l'élève au rang d'œuvre d'art et commande des portraits de sa protégée. C'est elle qui m'a sculpté, avouera Suzy. C'est ensuite une ribambelle d'artistes qui viennent s'accrocher à elle comme autant de moules à leur rocher. Impossible de rester de marbre face à son charisme hypnotique qui mélange douceur et rudesse. Ils s'y sont tous essayés. Picabia, Kiesling, Domergue, Marie-Laurencin, Dufy, Fujita ou Tamara de Lempicka. La voici qui apparaît sous les traits d'une jeune fille sage, d'une amazone, d'une séductrice, puis en masque mortuaire chez Francis Bacon. La mer n'est jamais loin, aussi la peint-on à la proue d'un bateau, en sirène ou en capitaine flibustier. La relation avec Yvonne Brémond-Ars prend fin au bout de 11 ans. C'est ensuite avec l'aviateur Jean Mermoz que Suzanne file le parfait amour. C'est lui qui fait réaliser un portrait d'elle par l'affichiste Paul Collin. Et ce Paul Collin, comme d'autres de ses amis artistes, conseille à Suzanne de se lancer dans la chanson. Suzy prend alors le pseudo de Solidor, en référence à la tour de son enfance, et elle fait ses débuts à Deauville, puis dans les salles parisiennes. Son répertoire se compose essentiellement de chansons de marins, d'où son surnom de Madone des Matelots, puis plus tard d'Amiral.
Je l'ai rencontré vers le nord, un soir d'escale sur un port, dans un bastringue abominable. L'air sentait la sueur et l'alcool. Il ne portait pas de faux col, mais un douteux foulard de soie. en entrant, je n'ai vu que lui.
En 1933, Suzy Solidor ouvre au 12 rue Sainte-Anne la Vie parisienne. L'un des premiers cabarets lesbiens de Paris qui devient un haut lieu de la capitale, où se produiront Édith Piaf, Charles Trenet, Eddy Constantine ou Colette Mars. Lorsque Suzy s'appuie au piano et tire d'elle une voix qui sort des zones les plus intimes de l'être, lorsqu'elle dompte cet élément qui donne le trac comme les vagues donnent le mal de mer, je m'incline. Ce sont les mots de Jean Cocteau, qui lui aussi a réalisé un portrait qui entoure la star dans son écrin de velours. De sa voix grave et sensuelle, une voix qui part du sexe pour Cocteau, Suzy Solidor chante au masculin. Le regard droit dans celui de ses clients, Joseph Kessel ou encore Colette, elle interprète des poèmes d'Edmond Haraucourt, Ouvre et Obsession.
Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux.
Son image de garçonne lui colle à la peau. En 1936, Suzy incarne Annika, une chanteuse opiomane, dans l'adaptation du roman sulfureux de Victor Marguerite. Puis la seconde guerre éclate et bientôt, une partie de la clientèle de son cabaret porte l'uniforme allemand. Sous l'occupation, la vie parisienne est très fréquentée par les officiers. Pour le plus grand plaisir des Allemands, Suzy Solidor s'approprie en 1942 l'une de leurs chansons préférées, Lili Marlène, popularisée par Marlène Dietrich.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir, on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux, Lili Marlène.
Vous l'entendez, la version française est chantée sur un rythme de marche, ce qui donne une ambiance très militariste à la chanson. Les Français l'entendent en boucle à la radio pendant que les soldats de la Wehrmacht se balancent sur leur fauteuil dans le cabaret de Suzy. Parce qu'elle n'a pas fermé son cabaret sous l'occupation, Suzy Solidor est traduite devant la commission d'épuration des milieux artistiques à la Libération. Elle reçoit un blâme et une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Contrainte de céder la direction de son cabaret, elle s'envole vers les États-Unis. La sentence est-elle justifiée? Rien n'est moins sûr, car certaines sources révèlent son rôle d'agent double. Suzy aurait en effet profité de l'ivresse de ses clients allemands pour leur soutirer des informations et les transmettre à la résistance. De retour à Paris, Suzy Solidor ouvre en février 1954 le cabaret chez Suzy Solidor rue Balzac, à 2 pas des Champs-Élysées. Mais l'ambiance est moins à la fête. Comme beaucoup de stars, et même si les plus grands artistes ont voulu la figer l'espace d'un instant, Suzy est une étoile filante. Elle a fait son succès sur son physique, et la cinquantaine passée, celui-ci a bien changé. Elle prend du poids, ses épaules de nageuse, comme le reste de son corps, subissent les lois de la pesanteur. C'est un comble pour la femme la plus peinte au monde que de ne plus supporter son reflet. Pour l'oublier, elle enchaîne des verres de whisky. De Paris, Suzy Solidor se lasse. À bientôt 60 ans, elle s'installe dans le cœur historique de Cagnes-sur-Mer, à l'abri du rythme trépidant de la Côte d'Azur. Perchée dans les hauteurs des Alpes-Maritimes, la chanteuse ouvre un dernier cabaret, un salon de thé ainsi qu'un magasin d'antiquités. Elle meurt en mars 1983, après avoir légué au château-musée Grimaldi de Cagnes 40 de ses plus beaux portraits. Suzy Solidor, qui a figé son image à jamais, ne sera donc jamais oublié.
Un refrain d'amour chantait sa rengaine au coin d'un faubourg où la foule aussi chantait.
Et pour continuer à parler de Suzy Solidor, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui lui consacre un roman. Bonjour Charlotte Dutot.
Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Charlotte Dutot, vous venez en effet de publier Les Nuits Solidor au Cherche Midi, un livre qui est le fruit d'un long travail puisque vous avez enquêté pendant plus de 2 ans sur Suzy Solidor, mais vous avez choisi d'en faire une fiction dans laquelle vous imaginez ses mémoires. C'est l'autobiographie que vous auriez voulu lire?
C'est exactement cela, Stéphane Bern. En fait, j'avais lu dans un extrait de journal que Suzy Solidor avait eu l'intention d'écrire ses propres mémoires. Pour une raison que j'ignore, elles ne sont jamais sorties. Et j'ai eu envie d'aller au bout de ce projet qu'elle avait eu pour elle. Et je pense qu'elle avait une belle histoire à raconter.
Vous pensez que c'était un projet ou vous pensez qu'elle les a écrites?
Je ne sais pas. Je pense qu'elle était... qu'elle a probablement écrit quelque chose parce que ça a été annoncé à la publication, mais je n'en ai jamais retrouvé la trace malgré mes recherches.
Alors, Suzy Solider est née en 1900, elle a vécu les deux guerres, elle a traversé, Stéphane l'a raconté, les mouvements artistiques, elle a vu les femmes obtenir des droits. C'est aussi le roman d'une époque que vous nous proposez là.
C'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est une traversée du XXe siècle. Elle est née en 1900, vous venez de le rappeler, elle est morte en 1983. Donc un très très grand chemin au travers du XXe siècle. C'est le roman d'une femme qui a vécu l'émancipation après la Première Guerre mondiale, cette volonté forte de retrouver la liberté dans un contexte pacifié. Elle a ensuite effectivement profité de la vague des années folles, de l'entre-deux-guerres. Elle a su se construire un réseau en étant introduite dans le milieu parisien par Yvonne de Brémond-Ars. Et elle est, comme vous le rappeliez tout à l'heure, avant tout la femme la plus peinte au monde, ce qui veut dire une traversée artistique du XXe siècle en chanson et en peinture.
Oui, je l'ai expliqué en effet dans le récit, les traits de Suzy Solider ont été immortalisés à plus de 200 reprises par des artistes très connus comme Francis Picabia, Jean Cocteau, Man Ray. On connaît finalement plus sa coupe de garçonne et son visage que son nom finalement, que beaucoup ont oublié.
C'est vrai, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu raconter son histoire. Je pense qu'elle est injustement oubliée. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense que ce que vous avez rappelé sur le fait qu'elle n'ait pas fermé son cabaret pendant l'occupation et le blâme national qu'elle a reçu au moment de l'épuration ont probablement joué dans cette perte de mémoire. Elle a dû s'exiler aux États-Unis, elle a dû vendre son cabaret. Elle avait commencé la chanson assez tard pour l'époque également, puisqu'elle était déjà dans ses 33-34 ans. Et je pense qu'elle a finalement laissé passer d'autres artistes devant elle, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
À la fin de sa vie, Suzy Solider a légué une quarantaine de ses portraits au château Grimaldi de Cagnes-sur-Mer. On peut encore les admirer aujourd'hui. Mmh. On a compté au tout plus de 200 portraits. Est-ce qu'on sait où se trouvent tous les autres?
Alors, probablement pas tous, mais on peut en identifier un certain nombre. Vous en avez dans quelques grands musées français. Par exemple, les photos de Man Ray sont à Beaubourg. Au musée Carnavalet, vous trouvez au moins deux de ses portraits. Et puis, ce qui est amusant, c'est que certains de ses portraits, bien sûr, sont chez des particuliers. J'ai eu la chance d'identifier dans mes recherche un très beau portrait de Suzy par Picabia qui est dans la maison de Soho du réalisateur Julian Schnabel.
D'après vous, qui est l'artiste qui a su le mieux au fond représenter qui était Suzy Solider? Parce que en ouvrant votre livre, on tombe sur un portrait réalisé par Tamara Dlempicka qui est absolument magnifique.
Oui, je dois dire que c'est mon préféré, mais pour répondre à votre question, je pense qu'ils ont tous su la représenter au travers des époques, donc avec leur style pictural différent, au travers de ce qu'elle voulait bien projeter également, de la petite Marine Malouine que vous trouvez au début chez Domergue ou Van Dongen, à une femme beaucoup plus libre, voire femme fatale que vous avez chez Tamara Dlempicka. Ce qui me plaît beaucoup dans le tableau de Tamara Dlempicka, c'est cette ambiance à la fois très froide, presque un peu glaciale, du style de Tamara Dlempicka avec ses formes très cubistes et géométriques, et en même temps beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse. Et il faut avoir en tête qu'au moment où Tamara Dlempicka peint Suzy Solider, elles sont ensemble.
Un tableau que vous pourrez bientôt contempler chez Stéphane qui va se porter acquéreur très rapidement chez Christie's.
Je pense qu'il vous plaît.
Il vous plaît Stéphane.
Oui, c'est très beau, mais vous savez combien ça vaut les Tamara Dlempicka?
Je ne sais pas, mais je sais que pour vous l'argent n'est pas un problème. Alors, quel courant
le bidel qui se fout de
quel courant artistique prédomine au moment où les peintres et les photographes s'arrachent vraiment Suzy Solider quand elle est au sommet?
Finalement, comme on vient de le dire, elle a été peinte plus de 200 fois sur 40 années. Donc ce sont de nombreux courants qui se sont succédés. J'ai envie de retenir les fauves avec Van Dongen en particulier. Je pense à l'école de Paris avec Fujita, avec Kiesling. Et puis les surréalistes. On faisait allusion à Picabia tout à l'heure, Man Ray.
Moi j'aimerais qu'on revienne quand même sur les cabarets dirigés par Suzy Solider. Quelle ambiance il y régnait? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier?
Je crois que le truc le plus extraordinaire, c'était vraiment d'entrer chez elle. Elle était une maîtresse de maison. Elle accueillait chacun de ses invités avec un mot pour chacun. Ils se sentaient connus et reconnus. Et puis, elle était entourée d'elle-même, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec des dizaines, et puis au fil des temps, bien sûr, plus de dizaines de portraits d'elle. Elle se tenait droite près d'un piano. Elle commençait à fredonner des chansons de marin qu'elle entrecoupait avec des poèmes de Cocteau. Et vous vous retrouviez probablement projeté dans un univers très, très feutré et très agréable.
Mais c'était coquin, c'était des endroits où on venait draguer.
Ça, c'était pas
malentendu. Non, mais j'en suis certaine.
Oui, oui, oui.
J'en suis
parce
certaine.
Parce qu'elle était aussi... Elle a été très aimée par des moins d'hommes que de femmes, d'ailleurs.
Absolument, des hommes et des femmes. Et vous avez raison, plutôt plus de femmes que d'hommes. Je pense que elle a rencontré Mermoz dans son cabaret, qui lui a été présenté par Joseph Kessel. Donc on venait y flirter et elle venait y flirter également. Tamara de Lempicka et elle y ont passé aussi quelques soirées, mais on venait aussi beaucoup écouter de la musique et admirer cette femme. Vous précisiez tout à l'heure que ses tenues en fourreau qui l'a moulée, je pense qu'il y avait un côté séductrice et sexy. Oui.
Mais elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, elle était libre tout le temps.
Elle était libre, elle était à l'image d'un certain nombre de ces femmes, notamment dans le milieu artistique de l'entre-deux-guerres, et qui ont poursuivi leur vie sur le même registre.
Comme Coco Chanel, comme aussi Kiki de Montparnasse, que Stéphane a bien connu, Suzy Solidor est le symbole même de la garçonne des années 20. Qu'est-ce qui caractérise ce style de la garçonne? Plus qu'une mode vestimentaire, c'était un état d'esprit?
Exactement, c'est un état d'esprit, c'est une volonté de liberté, c'est la sortie de la Première Guerre mondiale, on retrouve l'ivresse d'une période pacifiée. Il faut se souvenir que pendant la Première Guerre mondiale, un certain nombre de femmes avaient pris les métiers, les rôles des hommes, que ce soit au champ, dans les usines. Et Suzy Solidor, vous y faisiez allusion tout à l'heure, a elle-même passé son permis de conduire, ce qui lui a donné cette possibilité de s'émanciper.
Elle conduisait des ambulances pendant la Première Guerre mondiale.
Des ambulances et des états-majors, ce qui lui a donné le moyen de quitter son Saint-Malo, Saint-Servan natal. Et un certain nombre de ces femmes avaient cette formidable envie de liberté, de se développer, et probablement sans aucun tabou social.
Suzy Solidor a aussi écrit des romans. Son roman Fil d'or vient d'ailleurs d'être réédité chez Séguier. Est-ce que vous avez lu ces livres et est-ce que la romancière que vous êtes aime la romancière qu'elle était?
J'ai lu ses livres. Elle a écrit 4 romans. Je me suis beaucoup inspirée en fait de ce qu'elle écrivait parce que, comme dans ses chansons, il y avait une grande part d'elle-même et ça m'a énormément inspirée et aidée. Elle avait une plume qui aimait l'aventure et c'est ce qui m'a intéressée dans ses romans.
J'ai une dernière question qui me brûle les lèvres, mais c'est une pure curiosité personnelle. Il y a Lili Marlène qu'elle chante évidemment pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale dans son cabaret. Au fond, qu'est-ce que vous savez du rôle qu'elle a vraiment joué pendant la guerre dans son cabaret? Est-ce qu'elle était vraiment un agent double ou est-ce que elle faisait comme tout le monde, elle essayait de s'en sortir et
C'est assez compliqué, bien sûr, de savoir la réalité de cette époque. J'ai eu l'occasion de lire un certain nombre d'archives qui laissent entendre qu'elle a effectivement donné des informations qui ont permis de cibler des bombardements, qui ont permis d'éviter certaines arrestations. Ceci étant, elle a maintenu ouvert son cabaret, ce qui lui a été très fortement reproché à la fin de la guerre.
Merci beaucoup Charlotte Dutot. C'est passionnant la vie de Suzy Solidor.
Avec
en tout
plaisir.
Cas, c'est bien de la faire revivre. Je rappelle le titre de votre livre, Les Nuits Solidor, Mémoires imaginaires d'une égérie, qui vient de paraître au Cherche Midi. Et la réédition de Fil d'or est disponible aux éditions Séguier également.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on peut aussi voir en peinture. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez celui qui était le capitaine de la Méduse au moment de son naufrage en 1816, l'officier Hugues du Roy de Chaumaret.
Oui, un triste sire celui-là. Parce que voyez-vous, en 1815, après l'effondrement de l'Empire, quand Louis XVIII redevient roi, tous les officiers de marine issus de la noblesse qui avaient quitté la France sous la Révolution française reviennent et ils réclament un commandement. Et tous sont réintégrés dans la marine dans un grade supérieur à celui qu'ils avaient en partant. important. Alors, vous imaginez l'effet produit sur les officiers les plus jeunes et les plus compétents. Hein. Ils sont évincés au bénéfice de ces rentrants quinquagénaires, dont la plupart n'a plus mis le pied sur un bateau depuis au moins 25 ans. Eh bien, si vous voulez, tout le drame du radeau de la Méduse est là. C'est ce qu'il faut comprendre, pourquoi ça fait un scandale pareil. Le vicomte Hugues Duroy de Chaumaret est l'un de ces officiers sans expérience. Il n'a pas eu de commandement depuis 20 ans. Il a quitté la France à bord d'une barque. Bon, c'est ça la dernière fois qu'il a piloté un bateau, si vous voulez. Mmh. Mais on lui confie la frégate, la Méduse. Et la Méduse, c'est la frégate la plus belle, la plus moderne de la flotte française à ce moment-là, si vous voulez. Bon, alors le roi lui assigne la mission de diriger l'expédition chargée d'aller reprendre possession du Sénégal, rendu à la France par l'Angleterre à la suite de différents traités. Pourquoi lui plutôt qu'un autre, hein? Eh bien, parce qu'il jouit encore de sa réputation de héros des guerres de Vendée. 20 ans auparavant, le 27 juin 1795, il a participé au débarquement royaliste raté de Quiberon, qui a fait quand même près de 800 morts. Et c'est donc à sa survie en terrain hostile que Chaumaret doit son brevet de commandant à son retour en France. Par ailleurs, Chaumaret est un pistonnet et un menteur. Un pistonnet parce qu'il n'aurait jamais obtenu un commandement aussi prestigieux sans l'intervention de son oncle, l'amiral d'Orvilliers, qui est un ami du comte d'Artois, le frère du roi, vous voyez, dont on voit le réseautage. Et c'est un menteur parce qu'il se rajeunit d'un an pour ne pas tomber sous le coup de l'interdiction de commander un bâtiment qui frappe alors les officiers de plus de 50 ans. Donc résumons-nous, nous avons ici avec Hugues Duroy de Chaumaret un marin d'eau douce blanchi sous le harnais, n'ayant pas commandé de navire depuis 20 ans, pistonné par son tonton et mentant sur son âge. C'est pas joli, joli
c'est
tout
pas joli,
ça.
Joli.
Bon, le 17 juin 1815, la Méduse quitte Rochefort pour un voyage à Dakar qui aurait dû être une promenade de santé. Hein, on prend l'air sur le pont, devise, on parle de Trafalgar, au loin, quand on passe au loin de Gibraltar, mais l'atmosphère à bord va se dégrader très rapidement et pour cause. Chaumaret semble avoir tout oublié de la navigation. Il ne sait pas faire le point, ne contrôle pas les caps et pire, selon alors Eric Emptaz, qui dans la malédiction de la Méduse fait plutôt un livre à charge contre ce malheureux Chaumaret. Chaumaret a oublié le nom des voiles et il est alcoolique, il boit du matin au soir. Emptaz, alors c'est Emptaz, hein, c'est la façon dont il voit le bonhomme, le qualifie de baderne gonflé d'orgueil et de vinasse. De vinasse, je l'ignore, mais d'orgueil certainement.
Mais il avait pas un second?
Mais bien sûr que si, mais si vous voulez, il a des relations exécrables avec ses subordonnés parce qu'il les méprise, il n'écoute aucun avis. Et du coup, il règne à bord un sentiment d'aigreur et de jalousie allié à un laxisme généralisé entretenu par les officiers qui détestent Chaumaret. Bientôt, on arrive au large de l'Afrique. Alors, les marins qui ont déjà fait ce voyage lui disent « Mais écoutez, faut éviter ces côtes. Les courants sont dangereux. Les récifs et les bancs de sable sont nombreux. Faut prendre au large une route évidemment un peu plus longue mais moins périlleuse. Rien à faire. Chaumaret ne veut rien entendre. C'est toujours comme ça. Les gars qui se sentent mis en cause par leurs subordonnés. Ah, ben non, on peut
une
pas.
Mutinerie.
Non, on peut pas. On n'est pas à bord du Bounty. Non, mais dites donc, vous voulez rire. Donc, entêtement, obstination, aveuglement, refus d'écouter les autres. Chaumaret réussit le prodige de s'échouer à marée haute par un temps radieux et une mer d'huile à 100 km de la côte. Il fallait le faire. Et puis, ça va pas s'arrêter là. Quand ils sont échoués, il fallait lâcher du lest pour envisager de pouvoir repartir. Eh ben, il refuse qu'on se débarrasse des 14 canons. Il y a 14 canons à bord. Il refuse qu'on les mette à la baille et qu'on les mette à l'eau parce que ça serait un crime de lèse-majesté. Donc le bateau alourdi n'a aucune chance de redémarrer. Et contre toutes les lois de la marine, Chaumaret embarque dans les tout premiers à bord des chaloupes, sous les huées des marins restés à bord, qui, rendus furieux par cette trahison de leur commandant, s'emparent du fusil et le mettent en joue. Bon, on pense aussi que c'est peut-être, alors on n'en est pas sûr, mais ça serait peut-être Chaumaret. Une fois que tout le monde est sûr, à la fois sur les bateaux et sur le radeau, c'est lui qui aurait rompu la touline, c'est-à-dire la mare qui permettait de remorquer le bateau. Parce qu'ils sont très bien, ils sont vite rendus compte que si les chaloupes sur lesquelles il y avait des rames continuaient à traîner ce radeau derrière, elles n'arriveraient jamais sur la côte. Donc ils ont rompu la mare. Résultat, sur les 147 hommes embarqués sur le radeau, il n'y aura que 5 survivants. survivants. Et sans eux et leurs témoignages, Chaumaret aurait coulé des jours paisibles. Au lieu de ça, il passe en cour martiale. Et pour ce qu'il a fait, la loi prévoyait la peine de mort. Mais on est sous la Restauration. Le roi veut défendre sa marine constituée d'anciens officiers de l'Ancien Régime. Et du coup, que croyez-vous qu'il arriva ? Il est condamné à 3 ans. T'as 3 ans de prison au lieu de la peine de mort. C'est quand même un peu léger, hein. Bon, après, il retournera dans ses terres. Et l'on raconte que jusqu'à la fin de ses jours, il dormira sur un lit de sarment de vigne pour expier ses fautes. Bon, pour ma part, je n'en crois pas un mot. Et j'avais fini par trouver un portrait de Chaumaret. Si vous voyez dans Astérix et Obélix, dans la Zizanie, un personnage s'appelle Détritus.
Détritus, voilà. Alors,
Il ressemble à Détritus. Oui, autant horrible. Vous dire qu'en effet, il vaut mieux qu'on ne le voit pas en peinture, mais pour ma part, je ne peux pas le voir en peinture, ce triste sire
Merci
de Chaumaret.
Merci Clémentine, en tout cas, vous nous avez bien éclairé sur cette figure maudite de l'histoire.
Ce Francesco Schettino du 19e siècle, vous savez, le capitaine du Costa Concordia qui était parti.
Bien sûr.
Allez, on oublie Hugues Duroy de Chaumaret et tout de suite, on passe au quiz.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Depuis que la direction lui a demandé d'être plus élégant à son égard, Stéphane Bern en fait trop avec Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ses épaules de marbre blanc, ses longs cheveux noirs, ses courbes suaves et cette carnation laiteuse des brunes ne sont pas tout.
Oui, vous exagérez Stéphane, jouons tranquillement à Bern tout bien là, n'en faites pas trop. Nous sommes en 1652. Pierre de la Porte est le premier valet de chambre de Louis XIV qui a 14 ans. Le valet tombe en disgrâce pour avoir dit un gros mot en présence du futur roi. Il a dit « mort diable ». Vrai ou faux ?
Oh, c'est très possible parce qu'on n'avait pas le droit de jurer à la cour du roi de France. On n'avait pas le droit de jurer. Pas le sang bleu, par exemple, est entré dans les mœurs.
Comment vous dites ?
Parce que pas le sang bleu.
Pas le sang bleu.
Qui a donné, peut-être, dit-on, le mot « sang bleu ». Parce que seuls les aristocrates avaient le droit de
dire ça.
Oui, donc je pense que c'est tout à fait possible. On n'avait pas le droit d'utiliser le nom de Dieu ni du diable dans les jurons. On n'avait pas le droit de jurer devant
vrai,
le roi.
C'est vrai, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il est resté son valet de chambre tout de même, non ?
Après, c'est Bontemps qui est...
C'est Bontemps, vous avez raison,
c'est Bontemps qui...
Laporte aurait pu... Oui, alors bon, oui. Ouais.
Je dirais oui, parce que c'est très plausible.
C'est très plausible,
vous avez...
en effet.
Perdu.
Mais c'est faux. Les raisons de sa disgrâce sont assez obscures, pour tout vous dire. Il l'avoue à demi-mot dans ses mémoires, et Voltaire va aussi en parler. Le valet de chambre de Louis XIV, Pierre de la Porte, a dénoncé à la reine un attentat à la pudeur que le cardinal Mazarin aurait commis sur Louis XIV. Vérité ou simple volonté de nuire, difficile de savoir. Alors, voilà. Pas d'histoire de juron, en tout cas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine.
Mais ça aurait pu, parce qu'on n'avait vraiment pas le droit de jurer.
Bien sûr, c'était pas bien. Mais aujourd'hui non plus, on n'a pas le droit de jurer, Stéphane.
Vous avez entendu dire des gros mots.
Oh, ça m'arrive rarement. Question numéro 2. Dans les années 60 et 70, les femmes de Mayotte, luttant pour que l'archipel soit définitivement rattaché à la République française, étaient surnommées, Clémentine, les nananières, tellement elles avaient une réputation de femmes opiniâtres. Vrai ou faux ?
Les nananières, mais par assimilation ou avec quoi ? Les bananières, la République bananière, et à Mayotte, c'est les nananières. Alors vraiment, vous savez, chaud le... Je suis pas très féru d'histoire mayotine, mayotaise,
Le féminisme à Mayotte nous intéresse assez peu.
Si, ça m'intéresse beaucoup, potentiellement, mais alors pas au point de les nananières. Non, écoutez, non.
Vous voyez pas ces femmes se battre,
non,
s'appeler les nananières.
Non.
Vous avez...
Et vous avez raison, Clémentine. Attention, Stéphane, possibilité de gagner un point sur la question de votre comparse. Comment s'appelaient ces femmes de Mayotte dans les années 60?
Enlevez votre oreillette, s'il vous plaît.
Qui militaient pour le rattachement à la République française. Elles ne s'appelaient pas les Dananières, mais elles avaient un autre surnom.
Les Mayotines, comme les Mayotins, peut-être, non?
Non plus. Attention, vous allez perdre un point supplémentaire.
J'ai aucune idée.
Eh bien, on les appelait les chatouilleuses de Mayotte. Elles prenaient à part les dignitaires comoriens et les chatouillaient. Un drame est arrivé en 1969, une chatouilleuse a été tuée par balle par la garde comorienne. Le combat n'était manifestement pas à armes égales. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Si je dis Clovis, on pense au fils de Childéric Ier et de la reine Basile de Thuringe, fut le roi des Francs-Saliens. Mais Clovis, c'est aussi le nom d'un peuple préhistorique nord-américain qui a vécu à la fin de la dernière période glaciaire. Vrai ou faux ?
Alors, j'en ai jamais entendu parler.
Vous n'êtes pas bon sur les périodes glaciaires.
Non.
Vous êtes meilleur sur les périodes chaudes.
Les Clovis.
C'est ma question. Est-ce que les Clovis sont un peuple de la dernière période glaciaire? Pas l'avant-dernière, la dernière.
Les Clovis. C'est possible.
quelle est votre réponse?
J'en ai aucune idée.
Oui, je dirais oui. Oui, oui, c'est des Clovis.
Vous avez gagné.
Je savais que vous connaissiez mieux la période glaciaire que vous ne le laissez entendre, Stéphane. Parce que, il ne faut pas être pudique comme ça. Il faut dire ses compétences. Il faut y aller avec la période glaciaire. Je connais les Clovis, oui. Alors, ils ont vécu quand, les Clovis? La période glaciaire, c'est quand?
La dernière période glaciaire.
Mais vous la situez où, la période glaciaire?
Attends, les périodes glaciaires...
Dites-moi, vous la situez où, en termes de... En termes de moins 1000 avant Jésus-Christ? On est en millions d'années. Eh bien, vous n'êtes pas loin, puisqu'ils ont vécu de 9050 jusqu'à 8800 avant Jésus-Christ.
C'est un million d'années avant Jésus-Christ, puisque les glaciations quaternaires, c'est bien. Oh, pardon, excusez-moi.
Je vous donne la réponse.
Oui.
Ils ont vécu de 9050 jusqu'à 8800 avant Jésus-Christ. Donc, on est très loin des millions d'années.
Ouais,
leur nom vient de la ville de Clovis, qui se situe au Nouveau-Mexique. Enfin, mais Stéphane, mais c'est pas possible.
J'allais dire en Arkansas.
C'est quand même simple. C'est quand même simple. Question numéro 4.
J'ai marqué le point.
Oui, c'est ça qui compte. Clémentine, question numéro 4. En Finlande. Partons pour la Finlande.
Ah.
Au sud du pays, en 1968, une tombe datant du Moyen-Âge a été découverte avec en son sein trois guerriers. Après analyse ADN, il y avait deux hommes et une femme. La disposition des corps est sans ambiguïté. C'était un couple à trois. Vrai ou faux?
Il me semble qu'on a, trouvé deux hommes... Il y a les deux.
Ça,
il y a deux hommes
qu'on
enlacés à Pompéi récemment.
Qui étaient même plus qu'enlacés, ils étaient imbriqués.
Ouais. Alors, le trouble finlandais, bien sûr.
Le trouble finlandais, vous dites oui.
Vous avez...
Et c'est faux, pas de couple à trois, mais un seul guerrier dans cette tombe. L'originalité, c'est qu'après analyse ADN, on a découvert une personne intersexe. C'est-à-dire une personne qui n'avait pas deux chromosomes, ni XX ni XY, mais trois chromosomes XXY. Mmh. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. Ça touche aujourd'hui un homme sur 660, c'est énorme. Et ça se traduit par une apparence masculine avec une infertilité, une hypertrophie des seins et un micro-pénis.
Vous savez, Clémentine, Europe 1 devient la radio intersexe maintenant. Bientôt, il va y avoir des toilettes pour hommes, pour femmes et pour non-déterminés.
Oui, ben, ça sera très bien. Mais alors, dites-moi, autrefois, c'est ce qu'on
ça,
aurait...
il y aura plus de place.
C'est ce qu'on aurait appelé un hermaphrodite, autrefois.
C'est comme ça qu'on disait avant.
Oui, maintenant, on dit intersexe.
Voilà. Ok, bon, ben, je me le tiens pour dit, les cocos. Voilà.
Voilà. Vous avez marqué le point,
faut vous
c'est
adapter
essentiel.
Un peu à ce nouveau monde.
Non, merci.
Nous sommes à combien dans ce quiz?
Un partout.
Voici la dernière question. Nabi Tajima.
Notre petite musique.
Nabi Tajima était une japonaise.
Oui.
À sa façon, elle a marqué l'histoire de l'humanité, mais de quelle façon? Trois propositions. Elle a été la première femme de l'humanité à accoucher de sa petite fille. Elle a été la dernière femme de l'humanité vivante à être née au 19e siècle. Elle a été la seule femme de l'humanité à demander en mariage Stéphane Bern.
Un, deux.
Clémentine, vous remportez le quiz. C'est la bonne réponse. Elle a été la dernière personne vivante à être née au 19e siècle. Elle nous a quittés à 117 ans en 2008. Elle a eu 56 arrière-petits-enfants. Arrière-petits-enfants.
Donc ça n'était pas une hermaphrodite finlandaise, si je comprends
non,
bien.
Pas du tout. C'était une hétérosexuelle japonaise. Bravo Clémentine pour cette victoire dans le quiz.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, et c'est d'ailleurs dommage, car aujourd'hui il vous aurait fallu regarder Historiquement vôtre, n'est-ce pas Stéphane?
Oui, tout à fait Mathieu, car aujourd'hui nous réunissons trois personnages de l'histoire qu'on peut voir en peinture. Après Suzy Solidor, je vous raconte le destin de Gertrude Stein, cette collectionneuse d'art qui découvrit Picasso, entre autres génie de l'art moderne. Et puis Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'une contemporaine qui, elle, aurait préféré ne pas finir en peinture.
C'est exact Stéphane, pour le dire trivialement, Brigitte Bardot aimerait bien qu'on lui lâche la grappe. Voilà plusieurs années maintenant qu'un peintre tropézien utilise son image dans ses tableaux et sa bébé en a marre. Elle ne peut plus voir ses peintures en peinture. Elle pourrait porter l'affaire en justice d'ailleurs, et comme on s'en fout, ce sera surtout l'occasion de retracer le destin mythique de la seule star qui aime plus les chiens que Stéphane Bern, Brigitte Bardot. Et justement Stéphane, vous les aimez parce qu'ils ont le poil long et qu'ils remuent gaiement la queue quand ils vous voient, ce sont nos chroniqueurs.
Oui, David Cassio-Lopez qui remonte aux
c'est
origines.
C'est la musique de 30 millions d'amis.
Bien sûr.
Ah oui, nous sommes les amis des animaux ici. Oui. C'est une émission qui a beaucoup de chiens.
Oui.
Alors, vous nous remontez aux origines d'Instagram.
Oui, exactement. C'est très simple. Il n'y a pas de, complications. C'est une application que pas de piège. Une application que tout le monde utilise, qui a eu une origine. Et je vous dirai.
Est-ce que les frères Winklevoss ont créé Instagram et ils se sont fait piquer l'idée par
Non. C'est vraiment un truc honnête, honnête et droit.
Avec et puis également. Avec nous, Olivier Bouls, évidemment, ça va être l'heure de goûter.
Vous me gratteriez le haut de la tête, là, aussi
Oui, mais j'ai peur.
Est-ce que vous avez été vers le Puget, Olivier?
Oui, vous êtes vers le Puget.
On peut donc...
Chien perdu sans collier.
On peut donc vous tricoter. Enfin, vous caresser. Enfin bref, c'est encore pire.
Voilà.
En toute fin d'émission, en tout cas, une fois qu'on aura bien dégusté la guimauve, pour tout vous dire dans mon texte, ne sachant pas trop ce qu'était une guimauve, j'ai mis une fois qu'on aura bien sucé la guimauve, ce qui n'a absolument aucun sens.
On peut sucer
la guimauve.
Oui. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi en fait.
Eh bien, on a hâte. On oubliera en fin d'émission cette belle amitié qui nous lie et on jouera sauvagement à la lutte finale. Ce quiz sans pitié à la fin duquel souvent je gagne et David s'exclame:
je suis teubé.
Mais non, juste moins cultivé que moi, c'est pas grave. Rendez-vous à 6h moins le quart, je remettrai mon titre en jeu. Pour l'heure, découvrons l'histoire d'une grande dame de l'art moderne qu'on peut voir en peinture, et plutôt deux fois qu'une. Mais son plus célèbre portrait est celui réalisé par un certain Picasso qui cherchait à s'attirer ses bonnes grâces, parce que chez elle à Paris, c'était the place to be pour les artistes. Stéphane Bern nous raconte la grande figure de l'avant-garde parisienne, Gertrude Stein.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dans le Paris artistique du début du XXe siècle, oui, c'est elle, Gertrude Stein, qui fait la pluie et le beau temps. Dans son salon de la rue de Fleurus, les artistes sont adoubés ou non. Entre eux, la concurrence est rude. On assiste à des matchs de boxe où le pinceau remplace les gants et le ring est une toile, mais les coups font tout aussi mal. C'est dans ce contexte qu'est réalisé le célèbre portrait de la collectionneuse américaine par Picasso. Le peintre espagnol, futur fondateur du cubisme, en est à ses débuts. Depuis un an, il vit à Paris où il a rencontré sa femme, Fernande. Sa bataille des peintres, il la dispute avec Henri Matisse dans un but bien précis, celui d'avoir la meilleure place chez les Stein. Car le Gotha parisien s'y donne rendez-vous pour admirer les œuvres exposées dans la grande pièce où Gertrude reçoit. Alors, pour s'attirer ses bonnes grâces, quoi de mieux que de la peindre? Gertrude Stein accepte, comme elle l'acceptera pour Félix Vallotton et Francis Picabia plus tard. Picasso est impressionné par son physique massif, sa vivacité d'esprit et son avant-gardisme. En plein dans sa période rose, il décide de la représenter assise, dans une robe de velours côtelé brun-rouge. D'habitude, il travaille assez vite, mais le visage de Gertrude lui donne du fil à retordre. Alors il recommence encore et encore et lui demande de venir à Montmartre poser pour lui plus de 90 fois. Après 3 mois d'un travail intensif, Picasso accouche d'une œuvre qui préfigure l'un de ses plus grands succès, les Demoiselles d'Avignon. Matisse riposte en peignant son frère, Michael Stein, et sa femme, mais il ne parvient pas à détrôner Picasso dans le cœur et dans le salon de Gertrude. La Benjamine des Stein, une riche famille juive émigrée d'Allemagne, naît en février 1874 en Pennsylvanie. Gertrude passe ensuite son enfance en Californie. Quand son père meurt, alors qu'elle a 14 ans, sa tutelle passe aux mains de ses frères chéris, Michael et Léo, et sa vie devient alors, selon ses propres dires, très agréable. Grâce au capital familial, Gertrude n'a pas besoin de travailler. Passionnée par la littérature, elle se lance dans des études de sciences humaines, de philo et de psycho, avant d'étudier l'hystérie à la faculté de médecine de Baltimore, mais elle échoue en 1901. Son truc, c'est l'écriture. Gertrude habite alors avec Léo, son aîné de 2 ans qui aspire à devenir artiste. Quoi de mieux pour y parvenir que de rejoindre l'effervescence artistique de Montparnasse, à Paris? Gertrude le suit. Le frère et la sœur louent ensemble un petit appartement au 27 rue de Fleurus, une adresse appelée à devenir mythique. Les deux fréquentent les peintres, notamment l'avant-garde artistique. Léo achète sa première œuvre, un tableau de Cézanne intitulé « La conduite d'eau ». D'autres, beaucoup d'autres, suivront. Près de 600 tableaux passeront entre les mains des Stein entre 1905 et 1920, comme « La femme au chapeau » de Matisse. La rue de Fleurus devient un passage incontournable pour les artistes fauves et cubistes que soutient Gertrude. Intégrer leur prestigieux salon fait figure de rite d'initiation. Y défilent donc Bonnard, Gauguin, Manet, Picasso, Renoir ou Toulouse-Lautrec. Malgré sa notoriété, l'écrivaine Gertrude Stein est boudée des maisons d'édition qui ne comprennent pas encore son langage. En 1914, la guerre éclate. Au premier bombardement, Gertrude rejoint Majorque. Elle n'est pas seule. Alice Toklas, la secrétaire de son frère, est à ses côtés. Cela fait 7 ans que les deux femmes vivent une histoire d'amour intense. Le duo Gertrude-Alice a remplacé celui qu'elle formait avec Léo. Après Verdun, les deux femmes reviennent en France et Gertrude, qui apprend à conduire, travaille dans les hôpitaux de campagne. Une fois le conflit terminé, dans le salon de la rue de Fleurus, Gertrude reçoit les auteurs américains expatriés à Paris. Cette génération perdue, c'est ainsi qu'elle les nomme, son ami Ernest Hemingway la dépeint dans Paris est une fête. Gertrude Stein fréquente aussi Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby, le magnifique. De son côté, elle écrit. Elle publie un recueil de poésie. Ma célébrité augmente et même je commence à croire que j'en ai bien assez. Mais je ne vais pas me plaindre, je ne peux pas dire que cela me déplaise, écrit Gertrude Stein en 1927. Il faut dire qu'elle est la coqueluche de la capitale. Et pour couronner le tout, elle écrit un best-seller quelques années après. C'est son autobiographie d'Alice Toklas qui consacre son succès. Bon, le titre est trompeur. Il s'agit en réalité des mémoires de Gertrude qui s'y raconte elle-même à travers les yeux d'Alice. Sur un ton vif et drôle, l'auteur se questionne sur son identité. Si ces mots deviennent publics, sont-ils encore les siens ? La fin des années 30 est mouvementée. Le propriétaire de la rue de Fleurus souhaite récupérer son appartement, obligeant Gertrude et Alice à abandonner cette adresse, désormais mythique, et à déménager rue Christine. Mais dès l'année suivante, on refait les bagages. La guerre contraint les deux femmes, juives et homosexuelles, à se réfugier en Savoie. Les Allemands et la milice de Vichy savent très bien où elles se cachent, mais ne viennent pas les chercher. Ils ne touchent pas non plus à leur appartement et à leur collection. Pour cela, il faut remercier l'écrivain Bernard Fay, alors directeur de la Bibliothèque nationale, qui collabore avec les nazis et leur apporte protection. Au lendemain de la guerre, en juillet 1946, la papesse de l'avant-garde meurt d'un cancer à Paris. Sur son lit de mort, elle aurait demandé « Quelle est la question ?» avant de poursuivre. S'il n'y a pas de question, alors il n'y a pas de réponse. Raymond Queneau disait qu'essayer de comprendre Gertrude Stein n'était pas chose aisée. Alors au Metropolitan Museum de New York, où son portrait peint par Picasso est exposé, mais aussi dans l'œuvre d'Andy Warhol, qu'il a inclus dans ses 10 portraits de juifs du XXe siècle, à défaut de la comprendre, on peut au moins continuer de la regarder.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Gertrude Stein, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui la raconte dans un livre. Bonjour Isabelle Alfandari.
Bonjour.
Bonjour Isabelle Alfandari, vous êtes professeure de littérature américaine à l'Université Paris 3 et vous avez co-dirigé l'ouvrage Gertrude Stein et les arts, paru aux presses du réel. Raymond Queneau disait qu'essayer de comprendre Gertrude Stein n'était pas chose aisée. Et vous confirmez, est-ce que vous avez compris qui elle était ?
Je ne sais pas si j'ai compris, mais c'est vrai que Gertrude Stein est un auteur difficile à lire. Ça n'est pas déplaisant de la lire, ça n'est pas si compliqué parce que les mots qu'utilise Gertrude Stein ne sont pas des mots très compliqués, ce sont des mots de la langue ordinaire. Mais elle les agence d'une manière qui rend la lecture assez difficile.
Dans votre livre, vous écrivez que les représentations de Gertrude Stein deviennent un sous-genre de la peinture au XXe siècle, tant les artistes se l'arrachent. Qu'est-ce qui fascine tant chez cette femme ?
Je pense que ce qui fascine, c'est d'abord son physique énigmatique. Vous l'avez dit dans votre récit. Elle a une manière très massive d'apparaître. Elle est très mystérieuse au fond et elle entretient le mystère de son être américain. Et ce qui est aussi fascinant chez elle, c'est qu'elle a beaucoup d'esprit. Et elle arrive à attirer autour d'elle beaucoup de gens très célèbres qui se rencontrent dans son salon.
Son portrait le plus célèbre, c'est évidemment celui réalisé par Picasso entre 1905 et 1906. En fait, c'est Stein qui a inventé Picasso ou c'est l'inverse ?
Alors, je pense qu'ils se sont inventés l'un l'autre. Ils se sont rencontrés à une époque où ni l'un ni l'autre n'étaient connus, mais l'un et l'autre avaient très envie de devenir les plus grands artistes du XXe siècle. Et d'une certaine manière, l'un et l'autre ont réussi dans des genres différents.
Mais elle aurait voulu devenir une des grandes artistes du XXe siècle en littérature.
Oui, et c'est ce qu'elle est devenue.
C'est ce qu'elle est devenue plus tard.
Oui, c'est ce qu'elle est devenue plus tard. Elle est aujourd'hui très importante dans la littérature américaine et même dans la littérature française. Beaucoup de poètes français contemporains se réclament de l'héritage de Gertrude Stein.
Cette histoire de littérature me fascine un peu parce que j'ai jamais lu Gertrude Stein. En quoi c'est compliqué ? Est-ce que, par exemple, on peut le lire en français ? La traduction est fidèle à cette langue
un peu
particulière ?
Elle est fidèle parce que c'est une langue assez ordinaire. Mais ce qui rend la lecture difficile, c'est qu'il faut pratiquement passer par l'oralisation. Il faut lire à haute voix pour comprendre. Parce que ce sont des paragraphes assez longs. très vocaux, très, très peu simples à lire, même si les mots sont très ordinaires, parce que les phrases se répètent et déclinent à longueur de phrases, des mots et des expressions. Et donc, ça rend la chose à la fois, je sais pas comment dire, un peu comme à l'opéra, quoi. Il faudrait pouvoir lire à haute voix.
Chez les Stein, Stéphane l'a raconté, l'art est une affaire de famille. Mais pour qu'on comprenne bien comment ces Américains qui débarquent à Paris deviennent les collectionneurs d'art moderne les plus influents de la capitale, ça, enfin, avec le recul, ça paraît un peu dingue. Comment ça se fait si
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les Américains, à l'époque, n'ont pas encore vraiment de grandes collections, puisque c'était un pays très jeune, les États-Unis, à l'époque. Quand ils viennent en Europe et qu'ils ont des moyens comme les Stein étaient assez riches, le père était industriel, mais ils n'étaient pas non plus milliardaires. Mais les Stein, ils ont aussi une éducation, esthétique. Ils ont fait des études. Léo Stein est un historien d'art qui a étudié l'histoire de l'art, notamment en Italie, l'histoire de la Renaissance. Michael Stein a une passion pour l'impressionnisme. Ce sont des gens qui sont très cultivés et qui ont les moyens et qui décident de venir en Europe pour constituer une collection.
Mais ils sont les seuls ou il y a des rivaux? Enfin, on se dit, tout le monde doit sentir qu'il se passe quelque chose avec l'art moderne, on collectionne.
Il y a des rivaux, il y a des rivaux américains, parce qu'encore une fois, les Américains veulent acquérir aussi pour rapporter chez eux des collections. L'Amérique est un pays qui a un certain nombre de peintres, mais qui n'a pas l'histoire de la peinture européenne et n'a pas non plus la peinture contemporaine qui se peint.
Oui, parce que c'est l'époque où beaucoup de riches américaines ou de riches héritières américaines épousent des aristocrates français. On pense à Bonnie de Castellane qui épouse Anna Gould. On pense à Madame Mademoiselle Singer qui épouse le prince de Polignac. Enfin, et ces Américaines sont riches et elles achètent des tableaux.
Alors Stein, elle est fascinée par l'aristocratie française. Vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas d'aristocratie, par définition. Oui, ils sont fascinés à la fois par l'histoire de France et aussi ils ont le désir de s'inscrire dans l'histoire de la peinture contemporaine, la peinture moderne.
Vous écrivez que Gertrude Stein n'était pas seule dans ses choix artistiques puisque sa fratrie y prenait largement part. Pourquoi a-t-on plus retenu son nom de Gertrude plutôt que celui de ses frères Michael et Léo?
Alors, je pense qu'il y a une double raison. D'abord parce que Gertrude est celle des trois qui devient un très grand écrivain, même si elle a mis longtemps à se faire reconnaître. Et la deuxième raison, c'est qu'elle, elle est très intéressée par le cubisme, à la différence de son frère Léo. Et le cubisme, on le sait, a connu une fortune tout à fait extraordinaire au XXe siècle. Donc, c'est ça qui la valide dans ses choix.
Quand Stein arrive à Paris, elle a pour ambition d'être écrivaine, mais avant que son autobiographie d'Aliste Classe ne se vende comme des petits pains, elle a longtemps été boudée, Stéphane l'a raconté. Qu'est-ce qui gênait et pourquoi elle a mis tant de temps à se faire reconnaître et pourquoi cette autobiographie, elle, a fonctionné et a tout de suite rencontré son public?
Parce que cette autobiographie, elle est écrite comme une biographie, en fait, c'est de l'autobiographie d'Alice Beto Classe écrite par Stein, donc Stein fait semblant d'être... sa compagne. Et elle raconte ce qui se passe rue de Fleurus dans les années folles. Elle raconte donc le passage de tous les artistes, de tous les écrivains, des chorégraphes, des ballets russes, etc.
Et c'est ça qui intéresse les gens.
Et puis c'est lisible, pour une fois. C'est un livre qui est très intéressant et qui raconte la période.
Et quels sont, sinon, les principaux thèmes de son œuvre?
Alors c'est difficile de vous répondre parce que chez Stein, il n'y a pas de thème puisqu'il n'y a pas d'intrigue pratiquement. Mais on peut dire que quand même ce qui caractérise Stein, c'est le souci de la vie quotidienne. Elle est intéressée par l'espace domestique, par les choses qu'on trouve dans une maison, par les objets, par la manière dont les pièces sont agencées par exemple, également par l'alimentation qu'elle décrit de manière assez mystérieuse et énigmatique. Et sinon ces thèmes, c'est beaucoup aussi des questions de génération, de filiation et de famille.
Elle s'intéressait, elle avait fait des études elle avait étudié l'hystérie, notamment.
De psychologie et de médecine. Oui. Elle a été notamment l'élève d'un très grand philosophe et psychologue américain, William James, qui est le frère du célèbre écrivain américain Henry James. Oui, elle s'intéressait à beaucoup de choses, mais très vite, en échouant notamment en médecine aux États-Unis, elle a décidé que ce qui l'attirait, ce qui ferait d'elle vraiment, ce qui ferait le sens de sa vie, ce serait d'écrire.
Ben merci beaucoup Isabelle Alfandari. Je rappelle que l'ouvrage Gertrude Stein et les arts que vous avez co-dirigé avec Vincent Broca est disponible aux éditions des Presses du Réel.
Merci.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces stars qu'on peut voir en peinture. Après Suzy Solidor et Gertrude Stein, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une icône du cinéma français, Brigitte Bardot, en guerre contre un artiste qui utilise son image sans son consentement.
Beaucoup de sucre a été cassé sur le dos de Brigitte Bardot, Stéphane, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, elle est la dernière vraie grande star française. Aujourd'hui, on n'a plus de stars, on a des personnalités avec plus ou moins de followers sur Insta, et qui ne revêtent plus la moindre part de mystère, puisque vous savez en temps réel ce qu'ils ont bouffé au petit-déj. Hashtag nofilter, hashtag réveil gourmand avant tournage. Bébé, elle, incarne la star d'avant, lointaine, inaccessible, presque irréelle. Aujourd'hui, quand, pour le dire pudiquement et en langage castellopien, un ado veut se livrer à une expérience de microscope, il a un océan de possibles à portée de main à travers les sites pour adultes, une foule de visages et de corps s'offrent à lui pour servir de support à ses fantasmes. Nos parents, eux, n'en avaient qu'un seul, bébé. Ah ça, je peux vous dire, David, que nos regrettés papounets, ils en ont imaginé des trucs avec Brigitte Bardot.
Des gorges profondes, tout ça.
Non, mais inutile de rentrer dans les détails, oui, on a l'idée. Aujourd'hui, bébé n'est plus cette icône glamour qui a fait chavirer les cœurs. Elle est une dame de 87 ans qui en a marre qu'on l'emmerde. Et notamment qu'on utilise son image pour se faire de la thune, comme ce peintre tropézien nommé Sacha qu'elle a pris en grippe. Pourquoi tant de haine? Eh bien parce que Sacha de Saint-Tropez, comme son nom d'artiste l'indique, tient une boutique à Saint-Tropez et vend, sans l'accord de bébé, des tableaux que nous ne nous permettrons pas de qualifier de croûte, même si nous n'en pensons pas moins, représentant la star, ainsi qu'une tripotée de produits dérivés pas toujours du meilleur goût. Or, bébé n'est pas un Pokémon. Et elle l'a fait savoir à travers la voix de son mari qui a déclaré à Varmatin « Nous demandons à ce que cesse cette exploitation abusive, cette boutique se sert de l'image de Brigitte pour la détourner, il ne nous a jamais demandé l'autorisation de le faire. » Sacha répond qu'il est prêt à reverser une part du bénéfice à la Fondation Bardot, qu'il adore, mais Brigitte s'en cogne, elle veut tout simplement qu'il arrête de la peindre, et pour ça, elle est prête à aller en justice, l'occasion de revenir aux origines du mythe Bardot. Brigitte voit le jour le 28 septembre 34 à Paris. Son père, Louis Bardot, est un industriel qui se serait bien vu cinéaste, et sa mère, Anne-Marie Mussel, une mère au foyer qui se serait bien vue danseuse. La conjonction de ces deux frustrations jouera beaucoup dans le destin de Brigitte, que sa mère poussera à faire de la danse et que son père s'amusera à filmer en amateur. C'est aussi un traumatisme d'enfance qui explique sa passion pour les animaux. Écoutez, c'est une belle histoire. Petite, Brigitte a un lapin. Un beau lapin noir qu'elle a baptisé Noiro. Ah oui, chez les Bardot, on n'est pas fan du concept de mixité sociale. Quand tu es noir, ton surnom c'est soit Noiro, soit Bamboula.
Non, vous exagérez.
Bref, par un dimanche ensoleillé, la petite Brigitte s'installe à table pour un bon ragoût dominical. Un ragoût de quoi, Stéphane? Je vous le donne en mille.
Non.
Si, de Noiro. Un traumatisme fondateur, comme on dit. En 48, Brigitte est reçue au concours d'entrée du Conservatoire de danse de Paris, puis sa beauté commence à fasciner. D'abord les amis de sa mère, or parmi les amis de sa mère, coup de bol, il y a la directrice de Elle. Brigitte fera plusieurs fois la une du magazine. Le réalisateur Marc Allégret la remarque, quelle vista. Il l'a fait jouer dans Les Lauriers sont coupés, un film dont tout le monde se fout, mais sur le tournage, Brigitte découvre l'amour. L'assistant réel s'appelle Roger Vadim. Il va lui présenter nombre de réalisateurs, mais surtout, c'est lui qui va lui apprendre l'amour.
C'est le bout de la langue qui est bon. Oui. Parce que quand c'est au fond, il y a des morceaux du fond.
Oui.
Là, c'est moins agréable.
Oui, non, on n'est pas de détails, Roger. Et c'est aussi grâce au film de Vadim et Dieu créa la femme que Brigitte devient bébé. Une star internationale, une icône du glamour français qui embrase le cœur des hommes mais attise parfois aussi la rancœur des femmes, des mères notamment. Un jour, en pleine rue, une femme lui plante une fourchette dans le bras en hurlant « Mon fils fait la guerre d'Algérie pendant que vous gagnez votre vie en vous déshabillant, salope !» Comme tous les sex symboles, Brigitte vit mal son image de sex symbole. Sa carrière cinématographique est fulgurante, mais finalement assez courte. Elle décide d'y mettre fin en 73 après avoir tourné avec Francis Huster.
Évidemment.
Non, Stéphane, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir tourné avec Huster. Quoique, Francis raconte que c'était un des pires tournages de sa vie, surtout la scène de nu, je cite, « C'était pas facile parce que j'avais peur de bander. Je me suis mis un sparadrap comme un imbécile, ça n'a rien empêché, j'avais mal. » Sacré Francis. En tout cas, après avoir senti l'émoi de Francis sous son sparadrap, bébé décide de mettre un terme à sa carrière et de se consacrer intégralement aux animaux. Elle lance la fondation Brigitte Bardot pour lutter contre la chasse aux phoques, à la baleine et la commercialisation de la fourrure. Récemment, elle a clashé Robert Ménard sur la corrida, ce à quoi Robert a répondu avec beaucoup de tact « Allez vous faire foutre ». Pas très élégant vis-à-vis de Brigitte. La préfète de l'Oise est également dans son viseur, elle qui prévoit l'abattage de plus de 3000 renards d'ici mars 2022. Brigitte s'arrache les cheveux, d'autant qu'au sommet de l'État aussi, l'incompétence règne. Stéphane, dernièrement, elle a rencontré Macron. Son analyse, je cite, « Il était absolument nul, désolé Stéphane. Notez, c'était pas mieux avant.
J'ai pas d'action. Hein.
Jacques Chirac l'avait dragué à l'époque. Il m'appelait sa petite biche. Moi, mon but, c'était qu'il fasse fermer les animaleries des quais. Et là, il n'y avait plus personne. Oui, vous vous en doutez, bébé a énormément plu aux hommes et aux femmes. Elle aurait même, selon la rumeur, flirté avec Marilyn Monroe après l'avoir croisée aux toilettes. Je n'ai pas plus d'infos et c'est pas plus mal car David a son regard de quand il sort son microscope. Après Vadim, on notera dans le tableau de chasse de bébé Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Jacques Charrier qu'elle épouse avec qui elle a un fils Nicolas, au sujet duquel elle dit une très belle chose, je cite « J'ai eu un enfant, mais on ne peut pas dire que cet enfant, le pauvre, soit venu au bon moment et m'ait apporté ce qui me manquait. J'aurais préféré accoucher d'un petit chien. »
Bonjour, la psychanalyse de ouf pour le petit Nicolas. Parmi tous les hommes qui ont tenté leur chance auprès de bébé, certains auront vu leur proposition retoquée. On pense à Sean Connery. C'était un soir à Vegas. Il a été vite mis à la porte, raconte Brigitte. Il est arrivé à poil dans mon lit avec ses chaussettes. Il a pas fait long feu parce que j'étais pas une James Bond girl. James Bond en chaussettes, fin d'un mythe. Ce qui est troublant, c'est que Brigitte raconte peu ou prou la même histoire avec John Lennon. Un soir, j'ai retrouvé John Lennon à poil dans mon lit. Il a fallu trois mecs costauds pour le déloger car il était drogué à mort. Alors soit la mémoire de bébé lui joue des tours, soit cette pratique de se glisser à poil dans le lit des gens sans y être invité est plus répandue que je ne le croyais. Je regrette d'avoir été trop timide du coup. Aujourd'hui en tout cas, Brigitte s'est retirée du game chez elle à Saint-Tropez avec ses chiens et son mari Bernard Dormal. Elle a désormais un passe-temps, bitcher. Petit panaché des titres de presse la concernant sur les 4 dernières années. Traité de nazi, Brigitte Bardot explose de colère. Allez vous faire voir, Brigitte Bardot mitraille le gouvernement. Vous nous pompez l'air, Brigitte Bardot sort de ses gonds. Excédée, Brigitte Bardot monte au créneau. Honteux, écœurant, sordide, Brigitte Bardot mitraille les Césars 2021. Une course au pognon, Brigitte Bardot s'insurge contre le vaccin. Brigitte Bardot désingue le cinéma français. Il n'y a plus que des actrices aux cheveux gras. Et j'aime beaucoup celle-ci, Brigitte Bardot, anti-féministe, regrette l'époque où on saluait son joli cul. Bref, un conseil au peintre Sacha de Saint-Tropez, laisse tomber, une femme qui a dit non à Sean Connery et John Lennon, elle lâchera jamais. Bon, alors après, est-ce qu'elle a vraiment dit non à Sean Connery et John Lennon? S'était-il vraiment glissé à poil en chaussettes dans son lit? Brigitte a 87 ans, un âge où perdre la mémoire n'est pas rare, sachant que chez certaines stars, Alzheimer commence beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus tôt. Quand on pense que parfois, le matin, dans l'ascenseur, quand il croise son reflet dans le miroir, Stéphane s'exclame.
C'est fou ce que vous ressemblez à Stéphane Bern.
Mais c'est normal, c'est vous, Stéphane.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour pour retrouver ceux qui, à l'issue de la lutte finale, ne peuvent plus se voir en peinture.
Nous profitons justement du fait que nous sommes avant la lutte finale pour écouter ce qu'ils ont à nous dire dans un climat relativement apaisé. Olivier Pouls, vous êtes venu avec une guimauve aujourd'hui, oui. Qui ne se suce pas, qui se... Non, contrairement à ce que je croyais.
Qui laisse fondre dans la bouche.
Vous allez voir qu'on peut la guimauve n'est pas forcément ce que vous pensez en réalité.
Tout est possible avec la guimauve, oui. Mais surtout avec David Castello-Lopez qui nous raconte aujourd'hui les origines d'un objet de notre quotidien. Enfin, un objet. Instagram. Oui. D'où ça vient, Instagram?
Alors, dans la vie, je pense qu'il y a des grosses fiertés. Je sais pas, par exemple, travailler pour Europe 1. Hein, ou découvrir le vaccin contre la malaria. C'est les deux choses. Mais il y a surtout des fiertés minuscule, un peu mesquine, comme le fait de voir par exemple quelqu'un donner la mauvaise réponse à question pour un champion alors que vous avez la bonne, voyez, comme le fait de voir un ami réussir sa vie un tout petit peu moins bien que vous, et puis le fait aussi de n'avoir connu et après, et surtout le fait d'avoir connu et apprécié quelque chose avant que cette chose devienne mainstream, avoir tendu un sandwich triangle à Kurt Cobain avant qu'il soit connu, avoir joué au squash avec BHL au début des années 70. Et moi, j'ai une fierté de ce genre-là, c'est que j'ai été une des premières personnes du monde sur Instagram. Instagram, ça a été lancé le 6 octobre 2010, et moi, je me suis inscrit le 15 novembre de la même année. Donc, je suis probablement dans les quelques premiers milliers de personnes à m'être inscrit sur Instagram, une application qui compte aujourd'hui 1,4 milliard d'utilisateurs.
Mais comment vous avez fait pour être un tel pionnier, David?
Alors, je suis très content que vous me posiez la question, Mathieu, même si c'est moi qui vous ai demandé de me la poser.
Oui,
non, c'est simplement que j'ai fait une partie de mes études près de la Silicon Valley, et donc j'avais des amis qui étaient très branchés, nouvelle application tendance.
Mais t'aurais mieux fait d'investir plutôt que de t'inscrire.
Donc voilà, j'ai aucun mérite, et j'ai d'autant moins de mérite que je me suis dit, quand j'ai installé Instagram, c'est quoi cette application nulle, ça marchera jamais. La grosse vista des ténèbres, vous voyez. Alors l'histoire d'Instagram et de son succès, c'est une histoire finalement assez classique de la Silicon Valley. Ça a été créé par deux jeunes hommes de 27 et 25 ans, Kevin Systrom et Mike Krieger. Est-ce que vous pouvez deviner de quelle université ils étaient diplômés?
Harvard?
Non.
Yale.
Celle qui est juste à côté de
Stanford.
Stanford, voilà. Stanford, comme à peu près tout le monde, comme les gens de Google, tous les gens qui ont créé des applications. Kevin, quand il est sorti de la fac, Mark Zuckerberg a voulu l'embaucher, mais il a dit non. Il est plutôt allé étudier la photo à Florence, en Italie, pour s'imprégner comme ça de la photographie qu'il aimait beaucoup. Après, il a fait des stages, il a travaillé chez Google, et finalement, il a créé tout seul un prototype d'application qui s'appelait Bourbon. C'était en 2009, une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça n'a pas duré très longtemps, où il y avait une petite mode des applications de check-in. C'est-à-dire que vous arriviez dans un endroit, ça vous géolocalisait, vous disiez « je suis ici » au cas où vous aviez des amis qui étaient dans le coin aussi. Et Bourbon, c'était la même chose, sauf que vous pouviez aussi poster des photos. Et un jour, Kevin, il était dans une soirée de la Silicon Valley, et les soirées de la Silicon Valley, vous le savez, ça grouille de gens qui sont spécialistes du WC. Est-ce que vous savez ce que c'est que le WC ? Le VC, je peux vous le dire plutôt comme ça.
Non.
C'est le Venture Capital. Le Venture Capital, c'est des gens très très riches qui sont prêts à miser de l'argent sur des entreprises naissantes,
oui,
mais prometteuses. Et Kevin, dans cette soirée, il a pitché son idée de Bourbon à deux Venture Capitalistes qui étaient là et qui lui ont dit, ouais c'est cool, bah écoute, on va te donner 500 000 dollars pour que tu commences ton application.
Et vous avez l'adresse de ces soirées?
ça se joue à San Jose, à tous ces endroits de la Silicon Valley. Et là, Kevin, donc, avec ses 500 000 dollars, il s'est associé avec son ami Mike et ils ont décidé de recentrer leur application sur la photo. Ils ont travaillé dessus quelques mois à peine. Ils l'ont rebaptisé Instagram. Le 16 juillet 2010, ils ont posté la première photo de l'histoire d'Instagram, qu'une photo d'un chien un peu naze, comme ça, avec une paire de pieds à côté. Et le 6 octobre, ils ont lancé l'application. Ça a immédiatement eu énormément de succès parce que c'est arrivé pile poil au bon moment. Quelques mois après le moment où est sorti l'iPhone 4.
Et donc les appareils photo améliorés.
Exactement, qui était le premier iPhone qui prenait de bonnes photos, etc. Et en plus, il n'y avait pas vraiment d'application mobile photo qui, en plus, était un réseau social. Donc c'était le premier qui ont rempli cette niche. Et exactement un an et demi plus tard, Facebook a proposé à Kevin et Mike de racheter leur application pour... $1 milliard.
Un milliard, ça fait toujours plaisir.
$1 milliard, ça fait toujours très plaisir.
Partagé en deux. Hein,
voilà, ouais, exactement.
C'est vraiment rageant quand tu te retrouves avec 500 millions. De...
Bon, pour finir, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les mises en abîme. Alors, je vous propose de faire une petite story que je posterai sur ma page Instagram. Vous êtes prêts?
On est prêts, qu'est-ce qu'il faut dire?
Ok, c'est parti. Mathieu, Stéphane, Olivier, vous êtes là. On est en ce moment même à la fois sur Europe 1 et dans une story. Je viens de terminer une chronique sur les origines d'Instagram. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Mais je pense surtout que vous êtes le plus grand pionnier d'Europe 1 puisque vous avez été un des premiers sur Instagram, David.
Ça, exactement.
C'est merveilleux, je suis fier de vous.
Ça, c'est super, ça.
Vive Instagram. Et alors on est tous sur Instagram. Au lieu de faire l'émission, on est sur Instagram.
Je poste que de la bouffe, moi.
Ah oui,
essentiellement.
Et les réalisateurs en régie qui nous disent coucou, c'est super. Oh, il y a même moi en énorme sur un écran. Bon ben c'est fini, hein, voilà.
Merci David.
Merci David de Castel Lopez.
Oui, merci David.
On retrouve les origines, y compris d'Instagram, en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et tout de suite, en direct sur Instagram et sur Europe 1, on retrouve Olivier Pouls.
Europe 1, historiquement vôtre.
À l'époque où David Castello-Lopez traînait dans les soirées huppées de la Silicon Valley pour tenter de pitcher ses idées, lui, il faisait griller des chamallows autour d'un feu.
Eh ben non, même pas, Fillo, parce que moi j'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu être scout. Mon père n'aimait pas ça et il m'a interdit d'être scout. Donc j'ai jamais grillé de chamallow.
Et donc
chamallow.
Là, c'est vraiment un fantasme frustré
ouais.
dont vous nous parlez aujourd'hui, la guimauve.
Et surtout qu'en Belgique, on ne l'appelle pas ça la guimauve, ni le chamallow, ni le marshmallow, on appelle ça des lards.
Des lards?
Oui, du lard, je sais pas pourquoi.
Comment vous faites la différence entre du vrai lard et votre lard?
Bah, parce que ça se trouve pas dans les mêmes magasins, en fait.
C'est pour ça,
Alors, la guimauve, en réalité, comme le fut le Coca-Cola, est probablement dérivé d'un médicament. C'est-à-dire qu'à l'origine, la guimauve n'avait pas été conçue ou inventée pour être une friandise.
Et elle se suçait.
Et oui, elle se suçait parce que la guimauve, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est une plante. On appelle ça la guimauve sauvage. Elle existe toujours, évidemment, parce que les plantes ne disparaissent pas, en tout cas pas celle-là. Et on avait l'habitude d'en sucer les racines, qui avaient des propriétés médicales, et notamment pour lutter contre la toux. Alors, durant l'Antiquité, cette plante cette racine était utilisée. On la mélangeait à du miel, on faisait cuire et fondre tout ça, et on avait cette espèce de texture un peu particulière, qu'on appelle le mucilage. Et le mucilage, c'est en fait le gonflement au contact de l'eau de certaines matières végétales, qui prennent donc une consistance particulière, un peu visqueuse, un peu molle. Et c'est comme ça qu'on va consommer la guimauve, en fait, jusqu'au 19e siècle. À partir du 19e siècle, début 19e siècle, les confiseurs français vont modifier la recette et apporter deux choses importantes. Alors tout d'abord, ils vont remplacer le miel par du sucre. Et ensuite, la racine de guimauve, parce que c'était un peu compliqué à traiter, par un mélange de blanc d'œuf et de gélatine. C'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Ah, il n'y a plus de guimauve dans la guimauve?
Et non, il n'y a plus de guimauve dans la guimauve.
Non, arrêtez.
Et, voilà. Oui, et ce sera donc le début
voilà, France,
d'un
Stéphane.
Procédé de fabrication industrielle. était d'abord l'apanage de quelques confiseurs, hein, comme la maison Houdard à Paris. En 1948, il y a une invention très importante qui va complètement bouleverser encore le processus de fabrication de la guimauve. Il est inventé par un certain Alex Doumac et c'est ce qu'on appelle le procédé d'extrusion. L'extrusion, c'est expulser une matière, une pâte, à partir d'un contenant cylindrique en continu. David aurait pu nous raconter les origines de cette machine
comme de l'extrusion. Ça qu'on fait les pâtes,
souvent. Voilà, par exemple, et avec un système qui permet une découpe régulière et donc de former ces petites guimauves. Alors, on parlait tout à l'heure de ce qu'est un chamallow. Quelle différence entre chamallow et guimauve? Eh bien, chamallow, c'est une marque commerciale qui est née au début des années 70 dans le sud de la France, à Uzès, dans l'usine Zan à l'époque. Et c'était la volonté d'un des directeurs de l'usine de produire cette guimauve qu'on appelait marshmallow aux États-Unis, qui faisait un carton et s'est dit, ben, on va essayer d'inventer une recette et on va faire de la guimauve made in Uzès. Ils ont mis 10 ans à mettre au point la recette parce qu'il fallait trouver le bon équilibre justement entre les gélifiants, etc. Et ils l'ont baptisé chamallow. Et aujourd'hui, chamallow appartient à la marque Haribo. C'est donc une marque commerciale. Et si j'ai une minute, je vous donne une recette parce qu'on peut faire de la guimauve maison. Il vous faut des feuilles de gélatine, 6 feuilles de gélatine pour 150 grammes de sucre, 2 blancs d'œufs, un peu de miel, un tout petit peu d'eau, 5 centilitres d'eau, de l'extrait d'eau de rose si on veut par exemple la parfumer, un tout petit jus de citron, du sucre glace et de la fécule de maïs pour l'enrober par la suite. Et en fait, c'est très simple, on ramollit la gélatine dans l'eau, on réalise un sirop de sucre avec le sucre, le miel et quelques petites gouttes d'eau, on monte tout ça à 130 degrés, on monte les blancs en neige très ferme avec du jus de citron, et ensuite on vient verser le sirop de sucre sur les blancs, on rajoute la gélatine, on rajoute l'eau de rose, on mélange bien le tout, on coule ça dans un moule qu'on a préalablement tapissé de sucre glace et de fécule de maïs, et puis on laisse prendre au frigo pendant quelques heures, et après il n'y a plus qu'à découper cette guimauve qui a donc cette texture toute particulière.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Pour terminer, si vous ne voulez pas finir en guimauve, il va falloir mettre le paquet les amis. Hein. On va jouer avec l'histoire, vous êtes prêts à vous affronter?
Bien sûr.
Oui. C'est la lutte finale.
Historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe, une question pour Olivier, une pour David, une pour Mathieu. En cas d'égalité, une dernière question pour vous départager. Avec un chiffre à donner, il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse. Alors, première question pour vous, Olivier. Commençons par un poème. Le père du Panloup au Parlement se conduisit comme un garnement. Il monta jusqu'à la tribune pour exhiber la peau de ses burnes. Sur l'air de Thaddée Roussel, cette chanson paillarde a donné une jolie éternité à l'évêque d'Orléans, le fameux père du Panloup. Ce dernier a quand même été membre de l'Académie française. Vrai ou faux?
Ouf, c'est tellement absurde que, évidemment, que c'est tout à fait possible. Je dis que c'est vrai. Ouais.
Et oui, il a été élu en 1854. Je vous fais grâce de la suite de la chanson qui commence « Le père du Panloup à l'Institut, ne voulait voir que des culs nus », etc.
Vous sortez un disque bientôt?
Non.
Mes chansons paillardes préférées.
Il voulait montrer donc la peau de ses burnes. Ouais. C'est ça qu'il voulait faire. Ouais,
ça sonne bien.
David, 11 septembre 2001, inutile de vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Durant sa vie, Oussama Ben Laden a eu 3 nationalités. Vrai ou faux?
Il est saoudien, il a dû être anglais aussi, peut-être, à un moment. Je dirais oui, mais c'est sans doute faux. Mais je dirais oui. Et voilà, c'est faux.
Si c'est faux, pourquoi? Non. Si c'est faux, pourquoi vous dites vrai?
Mais j'en sais rien, moi.
Il a eu 2 nationalités. Il est né saoudien, puis il est mort au Pakistan, apatride. Il avait été déchu de la nationalité par l'Arabie saoudite en 1994.
Ah, donc il était apatride.
Il a jamais été anglais.
Et il a jamais été anglais, mais il a vécu en Angleterre un peu, je crois que c'est ça.
Mathieu Noël. Oui. Je ne sais pas si vous pédalez, je ne sais pas non plus si vous avez récemment posé une rustine, mais rustine, ce nom vient de Louis Rustine, qui a breveté le procédé en 1922. Vrai ou faux?
En 1922? On a attendu 1922 pour avoir des rustines? J'en sais rien, je vais dire oui, Louis Rustine.
C'est vrai. D'ailleurs, l'entreprise Rustine n'a pas changé la fabrication depuis la création, ni l'emballage, ni le slogan « Unis pour la vie ».
Très bien, mais voilà, ça me fait rire. En plus, ça fait mal à David.
Et moi, ça fait mal.
Parce qu'encore une fois... ne sert à rien si non, ça ne fait pas du mal aux autres.
Mais moi, j'aurais préféré une victoire sèche, là.
Tu vas avoir une victoire mouillée. Qu'on est là, enchaînons.
Alors, la question qui départage entre Mathieu Noël et Olivier Pouls. Donc je rappelle que c'est la réponse la plus proche qui remporte la lutte finale.
Pour rappeler aussi que c'est moi qui mène le jeu.
Mozart est mort il y a 230 ans. Durant sa jeunesse, il a vécu une tournée européenne exténuante en dormant très peu, ce qui pourrait expliquer sa petite taille car le manque de repos a perturbé son hormone de croissance. Il mesurait combien, à votre avis ?
Je vais dire...
Je peux jouer aussi juste pour de rire ?
Non, vous êtes éliminé, David.
Moi, j'ai... Voilà, je me suis engagé.
Alors, je ramasse les copies. Wood, Olivier.
J'ai dit 143
cm. 143 cm.
Moi, j'ai dit 1m56.
Ouais. 1m56, 156. Mais Mathieu, vous gagnez encore 152.
152.
Il mesurait 1m52.
Eh oui, c'était un plus d'un mètre.
Bravo, la victoire.
Et vous auriez dit quoi, David ?
Moi, j'allais dire 1m58. Mais donc, j'aurais
donc, c'est de toute façon Mathieu Noël qui aurait gagné.
C'est sans regret, David. C'est sans regret. Merci à tous, les amis. Quelque part, je vous dois cette belle victoire. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aujourd'hui à ces stars qu'on peut toujours voir en peinture. Vous-même, Stéphane, est-ce qu'il existe quelque part chez un collectionneur fétichiste, par exemple, un tableau vous représentant, et si oui, dans quelle tenue ?
Non, je toutes les représentations qui ont été faites de moi, je les ai ou rachetées ou
je me les suis fait.
Oui, absolument. Pour pas que ça.
Je vais en faire une comme ça, vous allez me l'acheter.
C'est ça.
Non, bonne stratégie.
Là, il y a une sculpture de moi, oui, qui a été faite par une.
C'est vrai.
Oui, j'ai acheté cher d'ailleurs. Je voulais tellement pas qu'elle reste dans la galerie.
Et on peut la voir chez vous ?
Vous l'avez chez
moi.
Mais
elle est exposée ou vous l'avez mise dans la cave ?
Elle est exposée. Elle sert de cale-porte.
L'artiste sera vraiment très contente de l'apprendre. Demain, à quoi faut-il s'attendre, Stéphane ?
Demain, elles ne veulent plus voir personne. On réunit trois recluses volontaires qui ne voulaient plus se montrer. La comtesse Virginia de Castiglione, qui refusait même de se regarder. La chanteuse Dalida, qui a quitté la scène pour ne plus qu'on la voie avant de quitter le monde.
Et la mannequin Linda Evangelista, ou plutôt ex-mannequin, après une opération de chirurgie ratée, elle ne veut plus se montrer.
Quelle horreur.
Comme vous dites, on verra ça demain.
Parfait, alors à demain Mathieu, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.